Mon chéri, ne m'attends pas ce soir. Je vais rentrer tard. J'ai un pot de départ avec les collègues.
Elle a tout sauté et elle a fini sa phrase très bas, en marmonnant. Elle a toujours peur que sa voix la trahisse. Depuis quelques mois, elle a appris à mentir. Elle donne le moins d'informations possible et au dernier moment, pour limiter les questions. Et surtout, surtout, elle évite de croiser son regard. Pourtant, elle l'aime, son mari. Ce n'est pas la question. Ce qu'elle cherche, c'est casser la routine, retrouver les fameux papillons dans le ventre et le frisson. Les rendez-vous pris en chuchotant, les messages effacés aussitôt reçus, la voiture qu'elle garde dans les petites allées, l'hôtel médiocre en périphérie de la ville où elle espère ne croiser personne, ni amis, ni collègues, ni famille, ni mari.
Podcast Story.
18h30. Habituellement, elle est chez elle. Assise sur le rebord du lit, elle réfléchit. Si ses enfants la voyaient, que penserait-il? Mais son amant entre dans la chambre. Il ne parle pas. Il est marié, lui aussi. Il s'approche. Il plonge ses yeux ténébreux dans les siens. Elle renverse sa gorge. Il lui mordit la jugulaire. Les remords tombent avec sa robe. Il se serre contre elle et il dégrafe son soutien-gorge. Elle se sent désirée. Elle se sent belle. Elle se sent libre. Elle croit qu'elle a 20 ans et qu'elle est amoureuse. Alors oui, elle est infidèle, mais tant qu'elle ne se fait pas prendre, ça ne fait de mal à personne. N'est-ce pas? Nous sommes infidèles. C'est le site spécialisé dans l'adultère, Glidden, qui le dit. 46% des hommes, 38% des femmes. Chiffre en constante augmentation. Mais ce terme d'infidèle, d'où vient-il? On peut remonter au Moyen Âge. À cette époque, les Templiers ordonnés par l'Église revêtaient des toges blanches brodées de croix écarlates. Armés jusqu'aux dents, ces moines soldats partaient en croisade. Ils parcouraient des milliers de kilomètres pour libérer Jérusalem. Ils mettaient la Terre Sainte à feu et à sang. Ils massacraient des Juifs, des musulmans, des infidèles. Ce mot-là sonne comme une condamnation. D'ailleurs, en latin, « infidelis » est celui qui n'a pas la foi. C'est le non-baptisé ou celui qui a renié son Dieu. En bref, celui qui mérite le fer, le bûcher et la damnation éternelle. De quoi faire trembler les coupables. Comment un terme aussi impitoyable a-t-il pu se glisser jusqu'au doux glossaire de l'amour? Aujourd'hui, si l'on ouvre le dictionnaire, on lit que l'infidèle est celui qui ne respecte pas ses engagements et notamment ses promesses d'exclusivité amoureuse et sexuelle. Très bien. Mais cette définition ne précise pas ce que l'on entend par exclusivité. Est-ce que coucher sans aimer, c'est tromper? Embrasser? Regarder le menu? Liker des photos? Fantasmer sur des films pornographiques? Comme le demandait élégamment Ardisson, est-ce que sucer, c'est tromper? L'exclusivité s'interprète de différentes manières. Il y a peut-être autant d'infidèles qu'il y a de jaloux. L'un semble définir l'autre. Et si l'engagement amoureux était une base bancale, propice à toutes sortes de malentendus? Pourtant, c'est une histoire ancienne, très ancienne. Elle date de l'Ancien Testament. Quand Moïse révélait au monde les 10 commandements, dont le fameux « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » L'infidélité était alors une simple affaire de violation de propriété et c'était gravé dans la pierre par Dieu lui-même. L'infidélité n'était pas accepté par nos ancêtres, ni par les Égyptiens, ni par les Romains, ni par les Grecs de l'époque antique. Au XVIIIe siècle, à la cour du roi, l'esprit était plus large, plus moderne. Les libertins considéraient l'amour comme une croyance gothique ridicule qu'il fallait profaner. séduire des femmes naïves et cocufier leurs maris. Mais ce comportement léger n'était permis qu'à l'aristocratie. Au XIXe siècle et une partie du XXe, l'infidélité était un raffinement compliqué. La panoplie à la mode des messieurs. Comme un accessoire, l'homme avait une danseuse. Il subvenait à ses besoins. C'était un loisir masculin et bourgeois. Si l'infidélité n'est pas tolérée, en revanche, elle est banale, elle est commune. Le mari, la femme et l'amant. Un trio, un triangle amoureux qui fait recette dans l'imaginaire collectif. Depuis le théâtre de boulevard, l'épouse s'écrie « Ciel, mon mari !» Elle se précipite à la fenêtre, il est là, il monte les escaliers d'un pas lourd. Les amants vont être pris sur le fait. Le cocu va-t-il battre sa femme ? La tuer, elle ou son galant ? Se suicider ? La poignée de la porte grince. Dans le placard, l'amant dévêtu. Dans la chambre, l'épouse repousse du pied une chemise sous le lit. La porte s'ouvre sur le mari. Le spectateur hurle d'un rire jaune et nerveux. Il connaît trop cette scène. Au fond, il tremble. Mais pour qui ? Pour le mari ou pour ses amants qui lui ressemblent un peu trop ? Et le monde moderne, alors ? On pourrait croire qu'on s'est débarrassé de la culpabilité et de l'hypocrisie des unions monogames. Eh bien oui, mais non. Certes, le nombre de mariages catholiques est en baisse depuis une dizaine d'années, passant de 88 000 en 2008 à 45 000 en 2019. La fameuse phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare » semble en effrayer plus d'un. Tout mariage confondu, en comptant les mariages civils et toutes les religions, on passe de 400 000 à 230 000. Donc on se marie moins, mais on s'engage toujours. On a remplacé le mariage par une notion plus large et floue. Marié, paxé ou amoureux de quelques semaines, on parle maintenant de couple. Le couple est le nouveau mariage et donc la nouvelle injonction à la fidélité. Et voilà le monde moderne qui navigue en eau trouble. Tiraillé entre un esprit conservateur et libéral, entre crédulité et scepticisme. Les magazines, notamment féminins, titrent aussi bien « 10 signes qui montrent qu'ils vous trompent » que « La monogamie est-elle contre nature ?» Des millions d'amoureux éconduits se réfugient dans le rayon développement personnel des librairies pour engloutir des livres aux titres comme des pommades. L'infidélité, pourquoi ça arrive ? Comment s'en remettre ? Faut-il pardonner ? Pouvoir pardonner l'infidélité du conjoint, votre plus belle preuve d'amour. Le modèle de l'amour exclusif demeure un idéal et il faut y accéder. À tout prix ? Les nouvelles technologies semblent redistribuer les vieilles cartes de la morale. En 2004, Facebook arrive. On s'abonne, on a un mot de passe, la liste de nos amis peut être secrète. L'application permet de retrouver un vieil amour du lycée, chatter avec le collègue sexy qu'on ignore au boulot, prendre rendez-vous avec l'institutrice qui nous fait de l'œil derrière la grille de l'école le matin. C'est simple, c'est discret, ça paraît anodin. Instagram prend le relais en 2010. Flirter n'a jamais été aussi facile. L'application repose justement sur l'image, l'apparence. Il suffit de s'abonner au compte d'une charmante personne. On ne s'est jamais rencontré et dans la vie non virtuelle, on serait trop timide ou trop en couple pour se draguer. Mais là, dans l'intimité de nos smartphones, nos visages de coupables éclairés de cette lumière blanche impitoyable, tout nous semble possible. Et ça l'est. Il y a moins de pression. En quelques likes et quelques messages, le tour est joué. Les systèmes informatiques nous aident à faire disparaître les traces de nos méfaits. L'historique de navigation peut s'effacer. Les téléphones ont des codes inviolables. En bref, pas de corps, pas de meurtre. Le jardin peut rester secret et le plaisir à portée de quelques clics. Car si l'on veut être honnête, en quelques secondes, essayez. Imaginez un instant que vous soyez contraint, disons, pour une raison de vie ou de mort, de montrer votre téléphone portable à votre conjoint. Lui montrer tout. Les photos, les SMS, les conversations de vos réseaux sociaux, l'historique de vos recherches, vos likes, vos applications. Qui s'en sortirait indemne? Qui n'a rien à cacher? Qui est fidèle? Ou plutôt, qui n'est pas infidèle? Ne l'a jamais été et ne le sera jamais. À méditer. L'infidélité plane dès que l'on fait couple, au point que l'un semble procéder de l'autre. Quand les amants se décident à prononcer le « je t'aime » fatidique, la question de l'exclusivité se pose immédiatement. On décide, par consentement mutuel si possible, de ne diriger son désir que vers une seule personne. Comme si le désir était une bête que l'on pouvait dresser. Mais il ne l'est pas. Alors la culpabilité est si insupportable que l'on fait appel à la science. En 1959, on découvre les phéromones. L'hormone est sécrétée malgré nous et agit comme un message entre les individus d'une même espèce. La substance chimique est supposée nous transmettre des informations qui influencent la physiologie et les comportements, notamment sexuels. L'alibi est parfait. C'est pas moi, c'est biologique, c'est chimique. Mais en réalité, ces hormones n'ont une vraie incidence que sur les insectes. Les fonctions cognitives du cerveau humain sont trop développées. On produit bien des phéromones, mais on ne peut plus les sentir, car l'organe, appelé voméronasal, situé dans le nez, ne serait qu'un vestige de l'évolution et ne fonctionnerait plus. En 2014, une étude australienne affirme que l'infidélité serait due à un gène, une sorte de tare héréditaire. Mais les mêmes scientifiques admettent que leur étude mériterait d'être approfondie. Bien essayé. En attendant, la société continue de taper sur les infidèles. Que dit le Code civil? Pour les unions officielles, l'étau se ferme carrément. Ou radicalement. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Oui, fidélité. Et on risque quoi? Tromper n'est plus puni par la loi depuis 1975 en France, mais l'adultère peut être considéré par le juge comme une faute et sanctionné lors de la procédure de divorce. À noter qu'avant 1975, la femme infidèle risquait de 3 mois à 2 ans de prison. Oui, 2 ans de prison. L'homme infidèle, lui, ne risquait qu'une amende. Ce matin, comme tous les matins, ils se sont quittés en s'embrassant du bout des lèvres sans se regarder. Sur le trajet vers le bureau, des pensées familières les traversent. Quand ils avaient coupé ce gros gâteau blanc qui leur avait coûté le prix d'un canapé, ils s'attendaient à autre chose. Ils pensaient échapper à la fatalité de ces couples qui se disputent, qui ne font plus l'amour. Pourquoi ne pas tout arrêter? Parce qu'il y a le crédit, la maison, les enfants. Parce que tout le monde en souffrirait. Mais ce jour-là, des dizaines d'affiches immenses sont placardées dans le métro. La solution est écrite en toutes lettres. Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale. Sur les pancartes, une pomme, rouge, croquée, comme le fruit défendu. Le site est destiné aux couples, aux personnes mariées ou souhaitant rencontrer des personnes mariées. Tout son fonctionnement tend vers la discrétion. Jusqu'à l'abonnement qui s'inscrira sur votre compte au nom d'une société introuvable. Lancée en 2009 en France, la société appartient à un entrepreneur français, mais sa conception a été pensée par une écrivaine, une journaliste et une sexologue. Pour répondre à la censure et assurer sa communication, Glidden crée un observatoire de l'infidélité. le site publie des rapports d'études choc. Comme je vous le disais au début de l'histoire, 46% des hommes et 38% des femmes admettent avoir déjà été infidèles au cours de leur vie. 77% des femmes sont infidèles car elles manquent de compliments. Et le meilleur, 35%, soit plus d'un Français sur trois, déclare qu'il pourrait avoir une aventure s'il était sûr que personne ne soit jamais au courant. On y vient. Ce n'est pas la morale, le respect de la parole donnée ou l'amour qui nous freine. C'est la peur. La peur de se faire prendre. D'où le succès de Glidden. On a longtemps mis les hommes au banc des accusés. Mais les femmes dans tout ça? Pour ce qui est d'accumuler les conquêtes, les mâles restent les donjons. Et les femmes? Des salopes. Mais les sondages vont à l'encontre des préjugés. Aujourd'hui, l'infidélité féminine est en nette hausse. 38% des femmes interrogées. En 1970, on parlait de 10% de sujets féminins fautifs et seulement de 14% en 2001. 38% aujourd'hui. Cela s'appelle une très forte tendance. Est-ce le baromètre d'une évolution des mœurs, du statut des femmes dans la société occidentale? En matière d'infidélité, les femmes sont peut-être des hommes comme les autres. Glidden dresse le portrait robot de la femme infidèle. Attention, spoiler, vous risquez de vous reconnaître ou de reconnaître votre chère et tendre. Elle est mariée depuis plus de 5 ans, elle habite une ville de plus de 500 000 habitants, elle est cadre supérieur et gagne bien sa vie. Elle est ambitieuse, elle approche de la quarantaine et s'entretient par une pratique sportive. C'est sans doute la description de toutes les femmes enviées et enviables, la description de la femme idéale. La femme idéale serait donc infidèle? Ces théories s'appliquent surtout en Occident. À Taïwan, par exemple, ou aux Philippines, l'adultère est passible d'emprisonnement. La loi s'applique aux deux sexes, mais la femme, vivant à la charge de son mari, n'envisagera même pas de le poursuivre. Dans les pays où la charia est appliquée, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou l'Afghanistan, l'adultère est un crime qui soumet à une amende, à l'emprisonnement et dans certains cas à la peine de mort. Cette législation est le plus souvent tournée contre les femmes victimes de viol. Étonnamment, même si dans les faits le caractère criminel est surtout symbolique, l'adultère est encore illégal dans 21 États des États-Unis. On parle du pays de la liberté. En 1990, un vieux concept refait surface. Il avait été inventé au 19e siècle par l'utopiste Charles Fourier, qui parlait d'amour multiple. À la fin du 20e, il entre dans le jargon amoureux sous le nom de polyamour. Cette pratique se veut basée sur la liberté, l'égalité et l'honnêteté, le respect des choix individuels et l'autonomie de chacun. Le postulat est qu'il est possible d'entretenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois avec le consentement des partenaires impliqués. Le polyamour est considéré par ses adeptes comme l'autre face de la monogamie, un Éden de félicité, une révolution qui bouleverse les règles d'une morale passéiste et liberticide. Julien veut assouvir ses désirs physiques et de tendresse pour Gaëlle. Certes, il est marié avec Pauline, mais après tout, Pauline a peut-être elle aussi des fantasmes qu'elle souhaiterait explorer. À l'occasion d'un dîner, un peu nerveux, Julien en parle à Pauline. Au dessert, le couple déguste de l'étonnement, beaucoup de questions, de larmes aussi. Après quelques jours de négociations, par peur de perdre son compagnon, Pauline cède. Julien et Gaëlle n'ont plus à se cacher. Ils peuvent s'aimer au grand jour. Mais l'adhésion de Pauline est-elle totale? Polyamour, un joli mot opaque, une idée séduisante qui cache souvent de simples cas d'infidélité ou de libertinage. Dans les faits, le consentement est-il si mutuel? À qui profite le crime? Réponse, à celle ou celui qui s'apprêtait, de toute manière, à tromper sa moitié. 17h. À Versailles, c'est l'heure du thé. Dans le salon feutré par son tapis et ses lourds rideaux bleus brodés de fleurs de lys or, la lumière de l'après-midi filtre paisiblement. C'est calme. Enfin, calme, mis à part les rires et les disputes des quatre enfants qui jouent à l'étage. Catherine attend. Elle est femme au foyer, bien sûr. Dans son milieu, il n'y a pas d'autre option. Elle est d'ailleurs ravie d'entretenir sa maisonnée, de préparer les cravates de son mari. Elle coordonne les couleurs de ses costumes en fonction de ses rendez-vous. Mais que fait donc Henri? Il devrait être rentré. On est dimanche. Après la messe et le poulet rôti, il a marmonné entre deux gorgées de café qu'il devait retourner au bureau. Un gros dossier, a-t-il dit. Catherine soupire. Il se pourrait que le bon et loyal Henri ait une aventure. Elle pense à sa cravate bordeaux qu'elle lui a préparée la veille pour égayer son costume gris. Elle pense qu'à cet instant précis, une autre femme agrippe cette cravate pour attirer son mari dans un lit. Il rentrera dans une heure, le teint rougi, les yeux baissés. Elle pince ses lèvres et prend une profonde inspiration. Dans son milieu, on ne pose pas de questions, on ne fait pas de crise. Dans son milieu, les couples ne divorcent pas. Dans son milieu, on ferme les yeux, comme dans les années 50. Mais nous ne sommes plus dans les années 50. Catherine, comme tout le monde, a vu les publicités pour ce site où l'on croque la pomme. Si elle a une heure devant elle, autant en profiter. Elle prend son portable. Elle a reçu plusieurs matchs. Elle est heureuse de constater qu'elle plaît encore. Versailles, ville traditionnelle, conservatrice, apparaît dans le top 5 des villes les plus infidèles de France. Désir, plaisir et discrétion. Finalement, depuis la nuit des temps, c'est peut-être ça le secret d'un couple qui dure.
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.
À pied, à vélo, en transport en commun, en voiture ou en train, à quoi ressemble la mobilité des Français et que peuvent-ils faire à 15 minutes de chez eux? Qu'ils habitent en ville, à la campagne ou en banlieue, leurs déplacements sont tous différents. Pour le découvrir, Le Monde Cities est allé sur le terrain, à la rencontre d'usagers et d'experts. Des reportages à retrouver dans le podcast « Un quart d'heure en ville », réalisé avec le soutien de Toyota et diffusé sur lemonde.fr et les plateformes d'écoute de podcasts.
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.